Voilà, alors une petite remarque que je vous fais tout de suite. Comme je voudrais quand même achever mon cours dans les délais prévus, c'est-à-dire à la fin de cette semaine, mes cours sur le décalogue, je voudrais bien que vous ne me posiez pas de questions pendant le cours. Comme je vous l'avais dit en commençant, et puis après j'ai relâché et j'ai eu tort, je voudrais que vos questions, vous les écriviez et que vous me les remettiez à la fin du cours. Et puis alors, je m'arrange soit pour y répondre dans les cours qui suivent, soit pour y répondre avant de faire un cours, ou à la fin. Hein. Alors, le principe, vous ne m'interrompez pas par vos questions, mais vous notez vos questions par écrit et vous me les remettez à la fin du cours. Alors, nous allons, pendant 5 matinées, étudier le décalogue et essayer de comprendre à la fois sa portée générale et les 10 paroles que contient le décalogue. Vous savez d'ailleurs que décalogue, ça veut dire les 10 paroles, n'est-ce pas? Et ce sont donc les 10 paroles du décalogue que nous examinerons. En fait, on peut dire que si l'Écriture sainte tout entière est loi de Dieu, tout ce qui est loi de Dieu se trouve en quelque sorte signalé par les 10 paroles. Et les 10 paroles elles-mêmes, comme l'ensemble de la loi de Dieu, sont résumées dans le sommaire de la loi qui nous est donnée dans le Nouveau Testament, avec des textes d'ailleurs tirés de la Torah. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si bien que il y a comme un organisme de la loi de Dieu, une structure de la loi de Dieu, qui est, je le répète, l'Écriture sainte tout entière, que nous devons recevoir comme loi, mais le décalogue vient en quelque sorte résumer, cette loi de Dieu, et nous en avons un sommaire encore plus bref dans les paroles que je viens de dire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Pour comprendre la portée du décalogue, il nous faut faire un peu d'histoire. Et donc, en introduction, maintenant, nous allons faire un peu d'histoire. Deux événements capitaux nous sont rapportés dans le livre de l'Exode. Le premier de ces deux événements, c'est la sortie d'Égypte. Et le deuxième de ces événements, c'est ce que j'appellerai la théophanie sinaïtique. La théophanie, c'est-à-dire l'apparition de Dieu au Sinaï. J'écris là le mot théophanie. La théophanie sinaïtique, parce que c'est au Sinaï que Dieu a révélé à Moïse le décalogue. Et d'ailleurs, pas seulement le décalogue, comme nous allons le voir. Ces deux événements, d'ailleurs, sont en étroit rapport l'un avec l'autre. On peut dire que la sortie d'Égypte et la théophanie sinaïtique constituent ensemble la naissance du peuple de Dieu et l'alliance que Dieu traite avec son peuple. Jusqu'à ce moment-là, Dieu a bien déjà fait alliance, mais il a fait alliance soit avec des individus, comme par exemple Noé, soit avec une famille patriarcale, comme la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il n'y a pas encore un peuple visible de Dieu sur la terre. C'est-à-dire une société, un ensemble de fidèles de Dieu constituant sur la terre le peuple de Dieu. il y a eu des fidèles individuels, il y a eu une famille fidèle, la famille patriarcale, et c'est pour ça que Dieu s'est d'abord appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il n'y a pas encore de peuple de Dieu. Et de même, il n'y a pas encore de Sainte Écriture. Il n'y a pas encore de Sainte Écriture. Il y a sans doute certaines traditions écrites ou orales, inspirées par Dieu, mais il n'y a pas vraiment un document écrit, une Sainte Écriture, parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le peuple de Dieu et l'Écriture sainte sont nés historiquement au même moment. Si bien qu'on peut dire que, en tant que société visible sur la terre, dès son départ, l'Église, pour appeler cette société l'Église, l'Église a eu une Écriture sainte. Dès l'apparition du peuple de Dieu, avec la sortie d'Égypte, ce peuple de Dieu reçoit, lors de la théophanie sinaïtique, reçoit une Écriture sainte. Si bien qu'on peut dire que jamais l'Église, en tant que peuple visible de Dieu sur la terre, jamais l'Église n'a été sans Écriture sainte. Dès la naissance de l'Église, cette Église a une Écriture sainte comme sa norme, comme sa règle, comme l'autorité de Dieu au milieu d'elle. Lors de la théophanie sinaïtique, Dieu donne l'Écriture sainte en donnant le noyau de l'Écriture sainte. Et ce noyau de l'Écriture sainte, c'est le Décalogue. Et autour de ce Décalogue, pendant les 40 jours sur le Sinaï et jusqu'à la mort de Moïse, il va y avoir le développement de la Torah. Donc, dès la naissance du peuple de Dieu, Dieu donne à ce peuple une Écriture sainte, d'abord sous la seule forme du Décalogue, et puis autour du Décalogue, avant, si je puis dire, et après, tout autour du Décalogue, autour de ce noyau qui est le Décalogue, va se développer l'Écriture sainte. Et la théophanie sinaïtique est un événement extraordinaire, je dirais d'une portée aussi grande que la sortie d'Égypte. Pendant 40 jours et 40 nuits, caché par la nuée qui couvrait la montagne, Dieu parlait à Moïse. Et le Nouveau Testament, à trois reprises, nous dit que Dieu parlait à Moïse avec le secours des anges. C'est Actes 7, 53, Galates 3, 19, Hébreux 2, 2. Je répète, Actes 7, 53, Galates 3, 19, Hébreux 2, 2. Nous ne savons pas trop ce qui nous est indiqué là. La Bible est très très réservée pour nous renseigner, comme peut-être nous le souhaiterions, sur cette communion intime que Moïse eut avec Dieu pendant ses 40 jours et ses 40 nuits sur le Sinaï. Plus tard, dans le tabernacle, c'est-à-dire dans le temple portatif, qu'était le tabernacle, Dieu continuera à parler avec Moïse. Il nous est dit au chapitre 54 et au verset 11, face à face, comme un ami parle à son ami. C'est un, je répète, 34, 11. Tiens, j'ai pas mis la référence, attendez. On va tout de suite vérifier. Non, c'est pas Exode. Vous avez raison. Alors, nous allons tout de suite faire la rectification. Vous voyez, souvent, j'oublie de préciser une... Vous n'avez pas de concordance, là, parce qu'on trouvait tout de suite. Bon, bah, écoutez, nous n'avons pas perdu... Quoi ?
On sait que c'était vrai, mais on ne sait pas
si... Oui, voilà. Vous le trouvez sur une concordance, mais moi, il faut quand même que je fasse attention et que je corrige. Alors, vous voyez, c'est très mystérieux. 40 jours, 40 nuits, un dialogue bouleversant entre Dieu et Moïse... Dieu et Moïse sont là face à face et Dieu parle à Moïse comme un ami parle à son un ami. Et tout ça, cela va nous donner la Torah. Et cette Torah, donc, est l'écriture sainte du peuple de Dieu. D'abord avec le noyau qui est le décalogue, et puis petit à petit, cela va se développer de mieux en mieux, de plus en plus. Remarquez, ce décalogue, puis ensuite cette Torah donnée par Dieu à Moïse, sont adressés, bien sûr, à Israël, mais au-delà d'Israël, à toutes les nations de la terre. Le texte qui nous le signale, si je puis dire, c'est dans le Deutéronome. Alors j'ouvre ma Bible là pour vérifier aussi, il va falloir que je vérifie toutes mes références. Deutéronome, chapitre 4, les versets 6 à 8. Oui, c'est ça. Alors, après avoir donc donné tous ces enseignements, Moïse dit, voyez au verset 5 du chapitre 4, « Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances comme le Seigneur mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez bien en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. » Et alors voilà la suite. « Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront « Cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons, et quelle est la grande nation qui est des prescriptions et des ordonnances justes, comme toute cette loi, cette Torah, que je vous présente aujourd'hui. » Alors, nous avons donc cette loi de Dieu, maintenant sous une forme écrite, nous avons un document qui est d'abord, je le répète, le décalogue, puis petit à petit, autour du décalogue, tout le reste de la Torah qui est révélé par Dieu à Moïse dans la théophanie sinaïtique. Dans son ouvrage sur The Institutes of Biblical Law, que je vous ai indiqué là, Rush Dooney a essayé de placer toute la loi biblique, aussi bien la morale que le droit, sous les entêtes des dix commandements. Si vous voulez, les dix grandes parties du livre de Rush Dooney ont comme entête premier, deuxième, troisième, quatrième, etc., parole du décalogue. Je dirais, ce n'est pas quand même aussi simple que cela. Je veux dire par là que il est quelquefois délicat de savoir si telle ou telle loi de Dieu, tel ou tel commandement de Dieu, telle ou telle directive de Dieu, est plus particulièrement, se relève plus particulièrement d'une parole ou d'une autre parole. En fait, d'ailleurs, nous le verrons dans ce commentaire, bien souvent, tel commandement relève, tel commandement de Dieu, telle prescription de Dieu, relève non pas d'un commandement ou d'une des paroles du décalogue, mais de plusieurs, et même certaines, on peut dire, relèvent de toutes les paroles du décalogue. Autrement dit, il y a des commandements de Dieu qui sont en rapport avec toutes les paroles du décalogue. Donc, la classification de Rush Dooney, et Rush Dooney semble en avoir parfaitement conscience, cette répartition, si vous voulez, de toute la loi sous les entêtes de chacune des 10 paroles, il ne faut pas quand même le pousser trop loin, c'est indicatif, c'est utile, je crois que Rojdouni a bien fait de faire ce qu'il a fait, mais enfin, il ne faut pas quand même être trop méticuleux là, et vouloir absolument que tel commandement ou telle prescription relève de telle ou telle parole seulement, quelquefois, je le répète, ça peut relever de plus.
Monsieur,
oui.
Oui,
je l'ai indiqué. Le verset 1 d'Exode 20 déclare « Et Dieu parla toutes ses paroles ». C'est intéressant de noter que là n'est pas employé le mot « commandement ». Et je pense que c'est à juste titre. Là, dans la version que j'ai, la version de la Bible de la Colombe, on a mis en tête les 10 commandements. Je suis de ceux qui pensent qu'on aurait mieux valu intituler ce chapitre, ça ne fait pas partie de l'Écriture sainte inspirée, hein. Les titres des chapitres, là, ont été mis par des traducteurs. Alors on a mis les 10 commandements, je crois qu'on aurait mieux fait de mettre les 10 paroles. Parce qu'en effet, il y a bien 10 commandements dans ces 10 paroles. Mais en fait, il y a plus que des commandements. Par exemple, il y a des rappels historiques. Exode 20, alors là je ne dirai plus le chapitre 20, les versets 2, 5 et 11. Hein? Au verset 2, ce n'est pas un commandement. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Au verset 5, il y a toute une révélation sur Dieu qui n'est pas un commandement. « Moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils, etc. » Bon, au verset 11, il est dit, là aussi une révélation sur Dieu, où on rappelle, en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Donc, en dehors des 10 commandements, ou en plus des 10 commandements, il y a des rappels historiques, comme ceux que je viens d'indiquer. Il y a des avertissements, comme par exemple dans les versets 5 et 7. Au verset 5, c'est un avertissement, parce qu'il y a une menace qui est liée à la désobéissance. Et au verset 7, c'est la même chose, tu n'auras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Et puis, il y a des promesses, en tout cas au verset 6 et au verset 12. Au verset 6, promesse de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui aiment Dieu et gardent ses commandements. Et au verset 12, promesse que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne, si tu honores ton père et ta mère. Donc, je crois que le titre « Les 10 paroles » est un meilleur titre que « Les 10 commandements » parce qu'il y a bien 10 commandements, mais il y a en plus des commandements, dans les 10 paroles, je le répète, des rappels historiques, des avertissements et des promesses. Ce qui est étrange, et ce qui a frappé beaucoup de commentateurs, c'est que deux seulement des 10 paroles, la quatrième et la cinquième, ont des commandements en forme positive. Tandis que les 8 autres ont des commandements en forme négative. D'interdiction. Et on peut se poser la question, mais comment se fait-il qu'au lieu de donner des commandements sous forme positive, Dieu ait donné ses commandements sous forme négative, sous forme d'interdiction? Eh bien, il faut noter que la forme négative des commandements manifeste davantage la liberté que Dieu nous laisse. C'est ainsi qu'un exégète catholique romain, Georges Ozou, qui est à mes yeux quelquefois un peu moderniste sur les bords, comme le sont un certain nombre de catholiques romains, de théologiens catholiques romains aujourd'hui, Georges Ozou écrit « Si l'on dit à quelqu'un », c'est un livre qui s'appelle « De la servitude au service », C'est un livre en français. Il y a des choses intéressantes hein, dans ce livre. Je vous le recommande pas chaudement. Mais enfin, si vous avez le temps de le lire et s'il y a la possibilité d'avoir la bibliothèque, c'est quand même un livre qui vaut la peine. C'est un commentaire de l'Exode, de la servitude au service. Paru en 1961, c'est donc un livre déjà ancien. Alors voilà ce qu'il écrit. Si l'on dit à quelqu'un, tu prendras ce chemin, tous les autres chemins lui deviennent interdits. Tandis que si on lui dit, tu ne prendras pas ce chemin, tous les autres lui demeurent permis. Or, vous avez exactement ça au début de la Genèse, lorsque Dieu ordonne, mais là il précise que l'on peut prendre de tous les fruits de l'arbre jardin, c'est au chapitre 2 de la Genèse, au verset 16 et 17. Le Seigneur donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien, si vous voulez, il est sûr que là, Dieu offre à l'homme la liberté. Il lui interdit un arbre. Un arbre. En disant, tu ne prendras pas de cet arbre, ça veut dire, et le texte le précise, que tous les autres arbres, l'homme est libre d'en prendre. Alors là aussi, la même chose, ce n'est pas parce que les commandements sont sous forme négative qu'il faut y voir quelques défauts qu'ils auraient, et en disant, oh, ce serait mieux si Dieu nous donnait ces commandements sous forme positive. D'ailleurs, attention, il y en a deux qui sont sous forme positive, mais enfin, il y en a 8 sur les 10 qui sont sous forme négative, mais c'est parce que Dieu offre à l'homme un grand champ de sa liberté, il lui interdit seulement certaines choses. Remarquez, pour prendre une comparaison moderne, on peut dire que s'il n'y avait pas dans les grandes villes un certain nombre de sens interdits, la circulation deviendrait impossible. Justement, on peut circuler dans toutes les rues, mais pour qu'on puisse bien circuler ou mieux circuler, eh bien, il y a certains sens interdits. Eh bien, là, au fond, Dieu interdit à l'homme certaines choses, mais du même coup, cela veut dire qu'il laisse le champ libre à l'homme, à condition que l'homme observe les interdictions que Dieu lui donne, les commandements que Dieu lui donne. Vous savez, mais enfin, c'est bon de le rappeler peut-être, que nous avons deux présentations du décalogue dans la Torah. Nous avons celle d'Exode chapitre 20, et nous avons l'autre forme en Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 18. Au reste, les commandements sont exactement les mêmes dans le texte de l'Exode et dans le texte du Deutéronome, et dans le même ordre, mais il y a quand même une différence que nous examinerons plus tard, que nous examinerons quand nous arriverons à cette parole, à propos du commandement concernant le sabbat. Donc, si vous voulez, à part le commandement concernant le sabbat, les textes sont identiques en Exode 20 et en Deutéronome 5. Et l'Écriture, à plusieurs reprises, souligne bien qu'il y a 10 commandements, qu'il y a 10 paroles. Nous trouvons en effet ce nombre 10 bien indiqué en Exode 34-28, Deutéronome 4-13 et Deutéronome 10-4. Exode 34-28, Deutéronome 4-13 et Deutéronome 10-4. Je répète encore une fois, Exode 34-28, Deutéronome 4-13 et 10-4. Au long de l'histoire de l'Église, on s'est souvent interrogé sur une répartition possible des 10 paroles. Pour les Juifs orthodoxes, après la destruction du Temple, donc après l'an 70 de notre ère, l'introduction du verset 2 était considérée comme la première parole. Ce qui est étonnant puisque elle ne contient pas de commandement. Et pour pouvoir compter 10, les juifs orthodoxes, après la destruction du temple, réunissaient le commandement contre le polythéisme, c'est-à-dire le premier commandement, et le commandement contre le culte d'une image, c'est-à-dire le second commandement. En effet, comme il devait y avoir 10 paroles, et qu'on prenait comme première parole ce qui pour nous est l'introduction, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude », alors il fallait trouver 10 paroles. Alors, pour ça, on réunissait, parce que sans ça, ça allait en faire 11. Alors on a réuni la première et la seconde parole, le premier et le second commandement. Les catholiques romains, eux, combinent de même les deux premiers commandements pour n'en faire qu'un. Hein, ils font donc comme les juifs orthodoxes, mais pour pouvoir compter 10, ils divisent la 10e parole en distinguant la convoitise de la femme du prochain des autres convoitises. Au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le judaïsme donc de l'époque de Jésus, c'est-à-dire le judaïsme de Joseph, avec un E à la fin, l'historien juif qui a fait un livre extrêmement passionnant, je pense que vous l'avez dans la bibliothèque, il faut l'avoir, c'est un livre qui s'appelle « Les guerres juives », c'est très intéressant parce que c'est cet historien juif, Joseph, qui nous raconte beaucoup de choses sur ce qui a pu se passer dans les 3-4 siècles qui ont précédé la venue de Jésus. Et puis c'était l'époque aussi de Philon. Alors, le judaïsme du temps du Nouveau Testament, c'est-à-dire le judaïsme du temps de Jésus, les chrétiens orthodoxes d'Orient et les protestants, à l'exception des luthériens, suivent l'ordre que nous avons, donc, nous autres évangéliques. Le premier commandement, c'est le verset 3, le deuxième commandement, c'est le verset 4, etc. Les luthériens, eux, ce sont les seuls parmi les protestants qui suivent l'ordre catholique romain. Mais eux, au lieu de distinguer la femme, la convoitise de la femme du prochain des autres convoitises, distinguent la convoitise de la maison du prochain des autres convoitises. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose. Mais nous sommes, ce qui est essentiel pour nous, et c'est pourquoi je pense que la position des protestants en cette matière est bonne, c'est que nous héritons de l'Israël du temps de Jésus. Nous héritons de l'Israël d'avant la destruction du Temple. C'est cet Israël-là qui nous donne l'Ancien Testament et qui nous donne aussi l'ordre, pas l'ordre seulement, mais la structure des 10 paroles. Or là, je dirais, les juifs du temps de Jésus, le judaïsme du temps de Jésus, les chrétiens de l'Église d'Orient, les chrétiens orthodoxes et les protestants, à l'exception des luthériens, sont donc d'accord. La première parole, le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Le deuxième commandement, c'est « Tu ne te feras pas d'image », etc. Mais on a voulu aussi séparer les commandements en tables. Vous savez, on disait qu'il y avait donc les deux tables de la loi, qu'on représente souvent comme ça, les deux tables de la loi, avec écrit là les commandements. Voilà. Alors, là aussi, il y a des distinctions. Par un espèce de souci d'équilibre, les juifs placent généralement 5 commandements sur chacune des tables. 5 et 5. Ça, c'est pour les juifs. Saint Augustin, lui, et un certain nombre donc de chrétiens de l'Église d'Occident, plaçaient les 3 premiers commandements sur une première table et les 7 commandements suivants sur la seconde table. Donc là, on n'avait pas 5 et 5, mais on avait 3 et 7. Les 3 premiers commandements concernant les commandements par rapport à Dieu, et les autres commandements, les commandements par rapport au prochain. Calvin, lui, plaçait les quatre premiers commandements sur la première table et les six suivants sur la seconde, parce qu'il pensait que le commandement sur le sabbat était plutôt un commandement par rapport au culte rendu à Dieu qu'un commandement par rapport au prochain. Ce qui peut d'ailleurs se discuter, parce que c'est dans ce commandement sur le jour du sabbat qu'il est dit « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Bon, enfin, je vous dis comment Calvin faisait. Donc, vous aviez une répartition, soit 5-5, soit 3-7, soit 4-6. Nous verrons tout à l'heure qu'il faut sans doute rejeter complètement toute répartition 5-5, 3-7 ou 4-6, et nous en verrons les raisons. Mais avant d'en arriver là, nous allons lâcher ce que j'appelle l'introduction, c'était ce que j'ai dit jusqu'à présent, et nous allons aborder la question du décalogue comme traité d'alliance. Le décalogue comme traité d'alliance. Vous voyez indiqué au tableau, parce que j'ai préféré écrire cela au tableau pour éviter toute erreur de ma part et de votre part, bon, j'ai noté quelques ouvrages qui ont déclenché une certaine révolution exégétique, aussi bien en ce qui concerne le décalogue qu'en ce qui concerne l'ensemble du livre du Deutéronome, et qu'en ce qui concerne non seulement l'ensemble de la Torah, mais même, on peut dire, l'ensemble de l'Écriture. C'est une définition du décalogue, du Deutéronome, de la Torah et de la Sainte Écriture comme traité d'alliance. Les choses sont déjà anciennes. Elles peuvent être datées d'il y a 30 ans. C'est en effet en 1954 qu'un savant, Meidenhold, alors là, ne faites pas trop attention, je prononce l'anglais comme une vache espagnole. Ne vous troublez pas par la manière dont je prononce l'anglais. Meidenhold a publié dans une revue fort intéressante qui s'appelle The Biblical Archaeologist. Or, c'est facile à comprendre, même ceux qui ne savent pas l'anglais. The Biblical Archaeologist, un article intitulé Covenant Form in Israeli Tradition. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Alors, donc, c'est pas un livre. C'est un article publié en 1954 dans la revue The Biblical Archaeologist. Et cet article fut suivi en 1955, un an après, par la publication d'un livre de Meidenhold intitulé « Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East », c'est-à-dire « La loi et l'alliance en Israël et dans le Proche-Orient ancien ». En 1960, un Allemand, Balzer, publiait un ouvrage, Das Bundesformular, que je vous ai indiqué ici, ce qui signifie la forme d'alliance, le traité d'alliance, on pourrait dire le traité d'alliance, Bundesformular, et D.J. McCarthy, publié en 1963, un livre intitulé « Treaty and Covenant ». Donc, vous voyez, de 1954 à 1963, pendant moins d'une décennie, plusieurs articles ou ouvrages paraissaient. Pourquoi ? parce qu'on avait découvert, l'archéologie avait fait découvrir, des traités d'alliance datant d'ailleurs, pour la plupart, du second millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire entre l'an 2000 et l'an 1000 avant Jésus-Christ. Il y a donc un certain nombre de traités d'alliance qui ont été découverts dans les fouilles archéologiques du Proche-Orient. Et la plupart, les principaux de ces traités, ont été publiés d'ailleurs dès 1923. On a commencé dès 1933 à les publier, mais on ne voyait pas l'impact que pouvaient avoir ces traités découverts par l'archéologie pour une compréhension nouvelle de la Torah, et en particulier du Deutéronome, et plus encore en particulier du Décalogue, comme traité d'alliance. Alors on trouve de E.F. Weiner, Politische Dokumente aus Klein Asien, c'est-à-dire les documents politiques venant de l'Asie mineure, et D.J. Weissmann, c'est lui qui dirige la publication de la collection qu'a Gilles Cohn, que vous connaissez, sur les commentaires. C'est l'IVF qui publie ça, commentaires sur l'Ancien Testament. Alors, Weissmann est le directeur de cette série. Hein? Alors, vous... Oui, c'est ça, Tyndale. Il a publié The Vassal Treaties of Esar Adam, c'est-à-dire les traités de vassalité d'Esar Adon. Donc, tout un ensemble d'ouvrages, d'articles, ont été publiés à ce sujet. Alors, attendez, vous avez noté tout ça, hein?
Non.
Bon, alors, écrivez, hein, ça va jusque-là. Vous me direz, là, quand vous aurez fini.
Bien sûr, c'est pas...